matin.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Déconfinement, donc étape numéro 1. C'est la une de la République du Centre, de la Voix du Nord. Le retour en classe très attendu dans l'Union de Reims. Mais beaucoup de questions sur la fin de cette année scolaire. Le bac 2021 dans la tourmente pour l'Alsace. Le casse-tête pour organiser les bacs blancs. À la une de l'éclair des Pyrénées. Le bac à rude épreuve pour la montagne. Dans Sud-Ouest, ce sont les restos qui sont déjà prêts à remettre le couvert. C'est pour dans une quinzaine de jours maintenant. Le procès de Nordal Lelandais est aussi à la une. Lelandais, tueur en série. La question barre la première page de la Dépêche du Midi. Va-t-il s'expliquer ? S'interroge le Dauphiné libéré. Quand aujourd'hui en France, je vous raconte ce matin les secrets d'un prédateur. Et puis la politique à la une avec cette alliance en région PACA entre macronistes et républicains. Muselier en marche, c'est dans la Provence. Le séisme à droite pour Nice ce matin. On s'arrête maintenant sur les trois histoires qui nous ont interpellés ce matin. Et Omblin, on commence en ce jour de rentrée des classes avec donc l'inquiétude des infirmières scolaires.
Oui, les collégiens et les lycéens retournent dans leurs établissements aujourd'hui. Alors des cours en présentiel et en demi-groupe. Si beaucoup de questions accompagnent ce retour en classe des élèves, eh bien c'est le flou complet concernant les tâches des infirmières scolaires et la manière dont elles vont pouvoir les accomplir. Libération nous parle de ces invisibles de l'éducation nationale. Depuis des mois, elles passent leur temps à, je cite l'une d'elles, courir après le Covid et le marathon va s'intensifier avec l'arrivée des tests antigéniques dans les collèges, des tests salivaires et des autotests dans les lycées. Ça, c'est la grande nouveauté de cette reprise. À partir du 10 mai, les lycéens vont devoir eux-mêmes s'enfoncer les fameux écouvillons de 10 cm dans le nez. Alors concrètement, comment cela va se passer? Les infirmières scolaires ne le savent pas parce qu'elles vont devoir se charger de ce protocole. Comment gérer des centaines d'adolescents avec ce test entre les mains? Comment prendre en charge un cas positif? Que faire ensuite des déchets? Eh bien, pas de réponse pour le moment. Le 10 mai, ça commence. Les infirmiers et infirmières scolaires sont 7700 en France, surtout des femmes, pour 62 000 établissements. Et le quotidien a recueilli des témoignages de certaines d'entre elles qui voient donc leurs conditions de travail se dégrader depuis la pandémie avec des tâches en plus, comme la mise en place des protocoles sanitaires, les traçages des cas contacts, les appels aux parents, les élèves, ça défile dans le cabinet.
Les premiers cas classe fermée, ça tourne parfois au casse-tête.
L'une d'elles dit qu'elle a reçu en une heure 17 élèves une fois. Le danger de cette situation, c'est de ne plus pouvoir accomplir l'essentiel de leur mission, des infirmières scolaires dépistées, les élèves en souffrance, les prendre en charge et faire de la prévention. Ce temps-là, eh bien, elles ne l'ont plus. À cela s'ajoute, disent-elles, le manque de personnel, aucun recrutement et l'absence de reconnaissance du métier par le gouvernement. Voilà, la fin d'année sera longue pour les infirmières scolaires. C'est l'histoire du jour dans Libération.
Je crois qu'elle va être longue pour tout le monde, cette fin d'année.
D'une manière générale, on est bien là.
Pour les élèves, pour les profs, pour les infirmières scolaires, pour les parents. Décidément, ça a été une année compliquée pour tout le monde. Voilà, c'est à lire dans Libération. Allez, une belle histoire, tiens, pour s'aérer un petit peu. C'est le Parisien qui nous la raconte et ça se passe au Parc Monceau. Vous savez, en plein Paris, on est dans le 8e arrondissement. Le miracle du Parc Monceau, voilà le titre que le journal a choisi pour nous raconter ce qui s'est passé mercredi dernier. Peter, un Américain de 53 ans, a fait un malaise cardiaque en plein footing. C'est au lieu du footing, le Parc Monceau tourne en rond. Donc, il fait un malaise cardiaque. Et c'est une jeune femme de 24 ans qui lui a sauvé la vie. Elle s'appelle Marion, elle est pompière réserviste et elle était là par hasard dans le parc pour un cours de gym. Mais quand elle a vu cet homme allongé sur un banc, elle a tout de suite réagi. C'est elle qui a commencé immédiatement le massage cardiaque tout en demandant l'aide de tous les passants qui étaient autour pour aller chercher le défibrillateur pour lui poser les patchs, etc. sur le corps. Résultat, le pouls est revenu avant même l'arrivée des pompiers. Et l'homme était sauvé. Mais la belle histoire ne s'est pas arrêtée là puisque sa femme, Laurie, a ensuite tout fait pour retrouver cette jeune secouriste pendant 3 jours sans relâche. Elle est allée voir le gardien du parc. Il n'avait pas son numéro. Alors elle a collé des affiches dans le parc Monceau. Et surtout, elle a utilisé les réseaux sociaux et c'est ça qui a marché. Son message a été repris 2400 fois. Il a reçu 13 000 likes et plusieurs des passants qui étaient là et qui avaient donné un coup de main lui ont répondu, soulagés d'apprendre que son mari était bien vivant. Et ce sont les pompiers de Paris qui se sont saisis de l'histoire et qui ont retrouvé la fameuse réserviste Marion. Ils ont même organisé un rendez-vous, ça s'est passé hier au Parc Monceau et la photo pleine d'émotion à la une du cahier Île-de-France du Parisien. Il paraît que toute la famille américaine de Laurie et Peter veulent maintenant rencontrer
Marion pour
la remercier. Elle sera peut-être invitée aux États-Unis, qui sait. Voilà pour la belle histoire du jour, c'est dans le Parisien. Martin, qu'est-ce que vous avez lu ?
Eh bien moi ce matin je vais vous parler des cartes Pokémon. Alors je ne sais pas si c'est de votre génération, mais c'est de la mienne, hein, ces cartes qu'on s'échangeait dans la cour de récréation. Vous connaissez peut-être via vos enfants ou vos petits-enfants. Alors elles avaient plus ou moins disparu, hein, victimes des consoles de jeux, de YouTube, des réseaux sociaux aussi. Mais elles font depuis quelques semaines un retour en fanfare puisqu'elles deviennent de véritables objets de collection. La semaine dernière, un YouTuber a dépensé 50 000 euros pour une boîte de cartes Pokémon. Hein, un investissement rentabilisé depuis puisqu'hier il a réuni près de 500 000 spectateurs lors de l'ouverture de la boîte, hein. 1,5 million de personnes sur YouTube pour découvrir les cartes qu'il a achetées. Ça paraît effectivement incroyable.
50 000 euros pour une boîte de cartes. C'est quoi, il y a quoi sur ces cartes? Juste les personnages.
Justement, c'est hier devant tous ses fans qu'il a montré quelles cartes il avait achetées. Et voilà, ça crée un engouement assez incroyable.
Ouais. Alors, comment on explique ce phénomène?
Alors, déjà, il y a la pack de ces YouTubeurs, hein, qui ont lancé des émissions et même des chaînes spéciales qui rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Ça participe forcément à l'inflation. Mais il y a aussi un marché de collectionneurs purs et durs. C'est ce que raconte le commissaire-priseur Florian Bourget, interrogé par le Huffington Post. C'est lui qui a organisé la première vente aux enchères de cartes Pokémon. C'était en 2018. Et depuis, il constate l'explosion du marché, hein, d'une poignée de fans historiques. Ils sont désormais 100 000 dans l'Hexagone à s'arracher les cartes japonaises. Plus d'acheteurs, ça fait obligatoirement s'envoler les prix. Une carte vendue 500 euros il y a à peine 3 ans, se vend aujourd'hui 12 000 euros. Alors ces prix peuvent sembler dingues pour une carte de jeu, mais pour le commissaire-priseur, c'est avant tout un achat de passionné, comme pour une œuvre d'art. Un achat affectif aussi, hein, car beaucoup d'acheteurs sont de jeunes adultes qui ont grandi avec les cartes Pokémon. Allez, un record pour finir, Omblin et Sébastien, la carte la plus chère jamais vendue, vous avez une idée ?
50 000 euros.
C'est déjà beaucoup. Il y en a encore plus cher.
C'est beaucoup plus que ça.
Beaucoup plus ?
Ouais, plus de 369 000 dollars, plus de 300 000 euros.
Le prix du papier.
Mais c'est ça, on parle d'un bout de carton quand même.
Exactement. Mais ça, oui, mais moi, ça me incroyable. Donne envie d'aller fouiller dans mes tiroirs pour voir s'il ne me reste pas une ou deux.
Oui, c'est ça. Et parce qu'on jouait avec. Alors, pardon, je ne suis pas de cette génération-là, mais on jouait avec ces cartes.
On se les échangeait.
Voilà.
Elles ont des valeurs.
Oui, c'est ça.
Selon le. Puis il y a le feu, il y a la flamme, il y a plein de choses.
D'accord.
Et l'ancienneté, il y a eu beaucoup de nouveaux Pokémon qui sont. Mais les premières, celles d'il y a
95. Celles de 95.
Il y a 25 ans, c'est celles-là qui coûtent le plus cher.
Et si elles sont restées dans le paquet.
Indémodable, visiblement. Ils avaient fait un retour, les Pokémon, avec le jeu sur téléphone portable aussi, il y a quelques années. Ça, voilà,
c'est vrai.
Ça revient. Décidément, la nostalgie n'a pas de prix. On le voit bien. Merci à tous les deux.